Le passage commence avec les pharisiens. Hein. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit. Donc on voit que cette fois-ci, il n'est plus question de parler aux disciples, mais aux pharisiens. Et les pharisiens, on sait que c'est plutôt des détracteurs de Jésus. La dernière fois qu'ils ont été mentionnés au chapitre 16, verset 14, il était écrit qu'ils tournaient Jésus en dérision. Et on sait depuis le chapitre 6, verset 11, qu'ils étaient remplis, ils sont remplis de fureur à l'égard de Jésus. Et on l'a vu aussi plus récemment, au chapitre 11, verset 52 à 53, Jésus était invité chez un pharisien. Il y a une petite dispute, on va dire. Et Luc rapporte que les pharisiens, à ce moment-là, commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Il lui tendait des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Donc finalement, la question ici, elle est de savoir si les pharisiens essaient de tendre un piège à Jésus ou pas. On sait que des fois, ils posent des questions pièges. Et là, la question qu'ils posent et concerne la venue du règne de Dieu. Et donc, c'est difficile de répondre à cette question. Est-ce que c'est un piège ou pas? Parce que la venue du règne de Dieu, c'est une question qui est bien présente au cœur de la foi juive, puisque le peuple israélien, qui est le peuple élu, attend la venue du Messie. Et le Messie, il doit venir justement pour établir le règne de Dieu, qui doit être un règne de paix. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément peut-être de piège dedans. Il n'y a pas forcément de controverse. Il y a un intérêt véritable pour, en tout cas, le peuple élu. Et cette attente du Messie, on l'a entendue déjà plusieurs fois dans les Écritures. On peut repenser, par exemple, à Zacharie, qui le dit hein, déjà lors de... comment ça s'appelle? Non. Ah oh, zut, ça m'échappe. Lors de son hymne. Tout simplement. Voilà, dans le Benedictus. Dans le Benedictus, il est question de cette attente messianique hein, au chapitre 1. On l'a aussi dans la bouche de Siméon, dans ce qu'on appelle maintenant le cantique de Siméon, ce Messie qui doit venir éclairer les nations et de rendre gloire à Israël. On l'a aussi dans la prédication de Jean-Baptiste. Donc, voilà, c'est bien présent dans des personnages qui sont en dehors de tout soupçon contre la recherche de controverses envers Jésus. Donc il y a bien là une attente qui est une attente commune pour tous les membres du peuple élu. Et ce que Jésus va révéler à nouveau, parce qu'il l'a déjà révélé, c'est que le règne de Dieu est inobservable à celui qui cherche des signes visibles là où il n'y en a pas. Il avait déjà dit une fois, hypocrite, vous regardez le ciel et vous êtes capable de savoir si il va pleuvoir, etc. Vous voyez de quel passage je parle. Et donc en fait, c'est parce qu'il ne regardait pas au bon endroit. Et là, il redit la même chose. Le règne de Dieu est inobservable à celui qui cherche des signes visibles là où il n'y en a pas. Parce que le règne de Dieu, il est déjà présent. Et non seulement il est déjà présent, mais là, à ceux qui posent la question, aux pharisiens, il est au plus près puisque c'est Jésus lui-même qui assure la présence de ce règne de Dieu. Et donc, les guérisons, les miracles, les exorcismes et même les enseignements viennent témoigner de cette présence du règne de Dieu en Jésus-Christ et donc au milieu des hommes. Et comme on l'avait déjà évoqué, les pharisiens, ils restent sourds, ils restent aveugles à ces signes qu'ils sont donnés parce qu'ils ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Donc Jésus annonce aux pharisiens la présence parmi eux du règne, en sa personne. Mais Jésus, si on observe bien, après, il s'adresse aussitôt aux disciples. Peut-être que c'est d'ailleurs pour ça que les pharisiens n'ont pas le temps de répondre. Aussitôt, il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Donc ce n'est pas la même réponse. Il ne dit pas la venue du règne de Dieu n'est pas observable. Il parle cette fois-ci de quelque chose qui va arriver plus tard. Il dit aussi, hein, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Donc, pour les disciples, qui eux ont déjà reconnu en Jésus le Messie, qui rend présent le règne de Dieu, en fait, maintenant il faut entrer dans une autre démarche, qui est de dire que le royaume n'est pas encore pleinement accompli. En fait, c'est ce qu'on avait déjà souligné, si vous vous souvenez bien, au chapitre 14, avec les paraboles, qui étaient des paraboles croisées du bâtisseur et du roi. On avait déjà montré qu'il existe deux étapes. Et la première étape, elle consiste à reconnaître en Jésus le Messie, et donc à reconnaître la présence du règne de Dieu. Ça, c'est la première étape, qui est l'étape de la conversion. Et ensuite, à ce moment-là, comme on est converti, on devient disciple, et on rentre donc dans la deuxième étape, qui est d'espérer la plénitude du règne de Dieu, parce que ce royaume est déjà là en Jésus-Christ, mais il n'est pas encore pleinement accompli. Et c'est ce que Jésus dit ici à ses disciples. L'accomplissement, il arrivera quand le jour sera là où le Fils de l'homme viendra comme l'éclair jaillit, illumine l'horizon. Donc il y a un maintenant, un tout de suite, et puis un plus tard, que l'on appelle plus communément le « déjà là et pas encore ». Et c'est pour ça que Jésus va aussi parler du rejet. C'est verset 25. « Auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » En fait, l'idée, c'est bien ça. C'est-à-dire que la plénitude du règne de Dieu, elle va venir, il n'y a pas de doute, mais elle interviendra après que le Fils de l'homme ait été rejeté et qu'il vienne de nouveau au jour de la révélation. Et cette révélation, même si elle demeure énigmatique, elle laisse à entendre, parce que Jésus donne l'exemple de Noé, parce que Jésus donne l'exemple de Lot, qu'il y aura des personnes qui seront sauvées et d'autres personnes qui périront. C'est aussi ce qui arrive à la fin. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Donc, on voit bien que certains sont pris, d'autres sont laissés. Certains sont sauvés, d'autres périssent. Donc, Jésus exhorte ses disciples à ne pas baisser les bras. Il les exhorte à demeurer forts dans la foi. Parce que lorsque l'heure sera venue, l'heure de la mort sur la croix, tout semblera s'écrouler, mais il reviendra victorieux et il prendra avec lui les justes. Et donc c'est comme ça qu'on comprend pourquoi est-ce que d'un seul coup Jésus se met à parler de la souffrance qui va être la sienne. Parce que cette souffrance, elle va arriver avant la révélation finale, avant le plein accomplissement du règne de Dieu, et elle sera pour certains la chute parce que leur foi ne sera pas suffisamment enracinée. Si on prend la parabole du semeur, c'est semé dans les ronces. Non, c'est pas les ronces, c'est dans les pierres. C'est-à-dire que quand survient l'épreuve, ils perdent la foi. Donc, il les invite à être des bonnes terres, à être forts, à être persévérants dans la foi. Donc, on voit comment est-ce que, après la foi et l'humilité, c'est maintenant pour les uns, les pharisiens, l'urgence de la conversion que Jésus prêche, et pour les autres, les disciples, ceux qui sont déjà convertis. Eh bien, c'est la persévérance dans la foi malgré les épreuves. Et on va voir que dans le chapitre 18, Jésus va parler, il va faire la troisième annonce de sa passion. Donc là, il pose déjà une pierre à ce qu'il va dire ensuite.